France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Aujourd'hui consacrée au cinéma et médecine, puisque nous sommes la semaine du Festival de Cannes, et nous allons recevoir avec nous
Céline Lefebvre
et
Laura Coppel.
Voilà, avec vous deux, nous allons parler des relations entre le cinéma et la médecine, et nous allons voir qu'une seule émission, c'est trop peu, parce qu'il y a énormément d'angles d'observation, de vision, d'écoute, en tous les cas, autour du rôle du cinéma et de la médecine. Vous avez, Céline Lefebvre, vous êtes maître de conférence en philosophie de la médecine, vous êtes directrice du centre Georges Ganguilhem, et vous enseignez donc la philosophie et l'éthique aux étudiants en médecine au cours de ce certificat. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous spécialiser dans ce type d'enseignement ?
Plusieurs choses. D'abord, la lecture de Georges Ganguilhem lui-même, qui est philosophe et médecin et qui nous a appris à appréhender la maladie et la santé du point de vue du patient, de son expérience, de ses valeurs, de ses normes de vie. Un courant aux États-Unis qui est né dans les années 90, qui est la médecine narrative, qui consiste justement à apprendre la médecine, l'expérience de la maladie, de la relation de soins à partir de romans ou de récits de malades ou de médecins.
La vraie vie, quoi.
La vraie vie. Et puis, des rencontres avec d'autres enseignants aux États-Unis notamment, qui enseignent justement cette anthropologie de la maladie, cette ethnographie de la maladie, la maladie vécue par les patients, leur famille, leur entourage, dans la société, dans la vraie vie, à partir du cinéma. Et le cinéma donnant une incarnation aux personnages, permettant de contextualiser les situations, de montrer que les patients sont des sujets qui restent des parents, des amants, des amis, des professionnels, avec la maladie.
On peut être malade et être dans la vie.
Exactement.
Et on est dans la vie et on peut être malade. Laura Coppel, vous êtes assistante réalisatrice. Vous avez travaillé en particulier avec Claude Lanzmann. Vous connaissez très bien le cinéaste Desplechin. Et vous êtes animatrice de Ciné-Club. Donc vous avez l'habitude aussi des commentaires, des analyses des films et de la relation avec le public passionné de cinéma.
Oui, c'est-à-dire je viens vraiment des salles de cinéma, de voir d'expérience de spectatrice et de partager avec les autres spectateurs la vision des films. Et je crois effectivement que les films nous aident à vivre et à comprendre le monde dans lequel on vit et puis aussi qui on est, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec les questions que peuvent poser la médecine. Qui on est, à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, ça m'a frappé un jour, c'est que un certain nombre de cinéastes qui sont pour moi parmi les plus essentiels, comme par exemple John Ford, Akira Kurosawa, ou, puisque vous l'avez cité, Arnaud Desplechin, dans leurs œuvres, j'étais frappée par la récurrence de la figure du médecin et par la façon dont il me semblait, en tout cas, que ça posait des questions à la fois essentielles sur nos vies et puis aussi des questions essentielles sur le cinéma lui-même.
Alors, le point de vue des salles de cinéma, le point de vue donc des patients et le point de vue du médecin que je vais quand même prendre de temps en temps, qui va me coller à la peau. Vous avez, Céline Lefebvre, aussi publié donc un certain nombre de livres, Devenir médecin au PUF en 2012, Questions de soins, et vous vous occupez de la collection.
La collection, c'est Questions de soins, et un des derniers volumes parus, ce sont Les Classiques du soin, qui est un collectif.
Donc, vous dirigez un enseignement optionnel d'histoire de philosophie et d'éthique de la médecine qui utilise donc le support cinématographique. Et de plus en plus, je vois que dans la fac de médecine, j'ai été invité à Montpellier il y a peu de temps, les étudiants font des jeux de rôle. Ils travaillent avec des équipes de théâtre pour se mettre en situation, soit de médecin, soit de patient. Ils alternent justement dans le but de leur faire intégrer ce que va être la relation médecin-malade vue des deux points de vue. Et donc le cinéma est aussi une autre forme. D'ailleurs, après chaque petit groupe projetait un travail de 4 minutes qu'ils avaient fait, soit en cinéma, soit en pièce de théâtre, soit en poésie. Et tout ça rentre quand même dans l'air du temps. Comment vous voyez le développement de cette approche, Céline Lefebvre? Qu'est-ce que vous cherchez plutôt à faire passer?
Je crois que les enseignements que vous évoquez répondent tous à un même besoin, c'est de compléter dans les études médicales les apprentissages scientifiques, biomédicaux et techniques qui sont excellents dans notre cursus médical, mais auxquels il manque ce que quand Guillaume appelait un changement de registre. Ce qu'il nous manque, c'est effectivement des apprentissages qui permettent aux étudiants de médecine de se décentrer de l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire médicaux, de se projeter en situation de malade, de s'approcher le plus possible de l'expérience vécue des malades et de leur entourage, de changer de point de vue. Et précisément, des grandes œuvres de cinéma, dont on va parler peut-être plus en détail,
bien sûr,
nous permettent vraiment de se couler dans la vie vécue. Avec la maladie, la vie vécue quand on attend les résultats d'un diagnostic, quand on est hospitalisé, quand on est en fin de vie, quand on est touché par une maladie grave, quand on a un enfant malade. Toutes ces situations-là, des grands cinéastes comme Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7, comme plus près de nous Xavier Beauvois dans « N'oublie pas que tu vas mourir » avec l'annonce de la séropositivité. Évidemment Kurosawa avec Vivre qui parle de l'annonce d'un cancer en phase terminale. Tous ces cinéastes nous aident à nous projeter dans cette vie des malades.
Non seulement à nous projeter dans la vie des malades, mais aussi à faire que le thème, par exemple le thème du cancer ou le thème de la génétique qu'on va voir aussi tout à l'heure, du coup passe de ce qui est un peu caché, soit dans la personne qui est malade, soit dans un certain milieu médical ou de recherche, du coup, prend sa position en place publique. Je veux dire par là que c'est sûr que les films, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les films sur le cancer, a fait que, du coup, on parle du cancer. Et le fait d'avoir vu ça au cinéma fait que la relation, je dirais, même entre les gens, pas forcément uniquement médecins malades, mais entre personnes, entre elles, quelle qu'elle soit, fait qu'on arrive à en parler beaucoup mieux. Un des films que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le film Rack de Charles Belmont en 1972, qui montre les limites du système médical et de la relation mère-fils autour justement du cancer. Mais vous citiez Nino Moretti en 93 sur le journal intime, qui lui se termine bien, hein, puisque...
Oui. Finalement, il n'y aurait pas le film.
Il va avoir une guérison. On a effectivement les fins de vie, on a effectivement la recherche du diagnostic, l'attente du diagnostic. Oui. Vous citiez Cléo de 5 à 7, et effectivement, il y a cette toute la vie qui va basculer dans l'attente de ce diagnostic, et au moment où le diagnostic arrive, bien sûr, et qui va marquer son empreinte. Je crois que toutes les deux, vous avez un cinéaste qui, sur le thème, vous marque énormément, c'est en particulier Kurosawa. Laura Coppel.
Il y a d'abord le fait qu'effectivement, c'est un cinéaste qui a, dans plusieurs films, filmé à la fois le médecin, le malade, et aussi le médecin malade. Il y a quelque chose qui se dévoile dans la façon qu'il a de filmer. C'est un très grand cinéaste avec un art de la mise en scène et de la direction d'acteur tout à fait stupéfiant. Et il y a quelque chose qui se révèle dans la façon de filmer le médecin. Alors, les quatre films les plus importants dans lesquels apparaît la figure du médecin, L'ange ivre, qui date de 1948, qui est l'histoire d'un médecin dans un quartier très pauvre donc de Tokyo, et puis qui va essayer de convaincre un jeune malfrat atteint de la tuberculose de se soigner. Le film suivant, c'est en 1949, Le duel silencieux, toujours avec les mêmes acteurs. Là aussi, il y a quelque chose d'une récurrence qui se poursuit. Toshiro Mifune et Takashi Shimura. Là, c'est l'histoire d'un jeune médecin sur le front pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui au moment d'une opération contracte parce qu'il s'est blessé la syphilis, et évidemment ça va changer. Lui, il sait qu'il l'a, et ça va changer complètement son rapport aux malades et sa propre vie. Ensuite, il y a Vivre, dont je crois que vous allez beaucoup parler, qui est le personnage de Takeshi Shimura, qui découvre qu'il est atteint d'un cancer en stade terminal et ça va complètement changer sa vie. Et enfin, peut-être le film le plus incroyable sur ce que c'est que d'être médecin, mais aussi ce que c'est que d'être cinéaste, Barberousse, 1965, avec Toshiro Mifune. Ce qui, moi, m'avait frappé, évidemment, et notamment dans Barberousse, et puis rétrospectivement dans les autres films, c'est combien, et puis aussi en mettant en regard avec d'autres cinéastes, la figure du médecin pose des questions qui me semblent être essentielles au cinéma. C'est-à-dire, le regard, qu'est-ce que ça veut dire de voir, qu'est-ce que ça, il y a un très beau plan dans L'Ange ivre, où le médecin, donc Takeshi Shimura, alors que Toshiro Mifune est ivre-mort allongé à côté de lui, le médecin prend la radio, lève les yeux, c'est filmé de manière admirable, on voit le regard du médecin regarder à travers la radio, et on n'a pas besoin que rien ne soit explicité pour comprendre qu'il saisit de quoi est atteint et de combien la maladie a déjà progressé, l'homme qui est à ses pieds. Ivre-mort, voilà. Donc il y a quelque chose qui me semble dans cette séquence absolument incarnée, qui est l'acuité du regard que le médecin ne peut pas ne pas avoir, c'est-à-dire confronter la maladie et la mort en face, et ensuite, évidemment, la question, donc cette acuité dont le cinéaste se doit d'avoir, que le cinéaste se doit d'avoir aussi, et ensuite la position, le rapport à l'autre, qui est là dans le plan par la mise en scène à l'intérieur de l'espace de ces deux personnages.
Le phénomène de l'annonce, vous avez des étudiants en médecine, et sûrement une des choses les plus difficiles, c'est d'annoncer quelque chose de grave à quelqu'un.
Alors, ce que nous permet le cinéma, c'est justement d'avoir des narrations et des mises en scène d'annonces, en particulier des annonces ratées, des annonces douloureuses, et de voir que peut-être il n'y a jamais, le premier message, ce serait de dire qu'il n'y a pas d'annonce de maladie grave qui puisse être parfaite. Il s'agit d'un événement dramatique, aussi bien pour finalement pour le médecin que pour le malade. Et précisément, on peut, à travers un certain nombre de films, montrer toutes les figures d'annonces ratées. Dans Vivre de Kurosawa, c'est très particulier. C'est effectivement une annonce sans nom, c'est une annonce sans mots, la plus objectivée, la plus froide et la plus distanciée possible. Il y en a d'autres comme ça, dans Cléo de 5 à 7. Le film se termine par cette annonce terrible de ce médecin qui est dans sa voiture décapotable et qui part sans doute en week-end et qui, dans les jardins de la pitié, annonce comme ça à Cléo qu'elle a quelque chose et qu'elle va avoir un petit traitement qui va un peu la fatiguer. Et évidemment, ce type d'annonce n'existe pas dans la réalité actuelle de la médecine. Mais en tout cas, il est vraiment d'une violence insupportable, mais précisément, en creux, par contraste, cela nous permet, avec les étudiants, de discuter de comment on aurait pu faire autrement et comment les blessures dans les annonces se nichent dans les détails, voilà, dans les couloirs, dans le manque de temps, dans les mots qui ne sont pas choisis et dans l'absence d'écoute et de recueil de ce que cela fait à l'autre d'entendre cette annonce.
Pour rester juste sur l'annonce, c'est vrai que souvent quand le médecin annonce, il faut qu'il s'attende et qu'il sache qu'il va y avoir une réaction violente contre lui. Parce que toujours, le messager est toujours porteur de mauvaises nouvelles. Et on liquide le messager. Là, on ne liquide pas le médecin. Mais il y a une agressivité qui va passer. Mais qu'il faut savoir. Il faut le savoir. Il y a aussi l'annonce. Donc, comment faire une annonce? Ça, c'est pour le médecin. Mais il y a aussi pour le patient. Donc, comment recevoir une annonce qu'on attend, qu'on doute? Enfin, c'est les films que vous avez cités. Puis il y a aussi celui du docteur Françoise Gaillard, le film de Bertolucci en 76 aussi, où le médecin lui-même va apprendre son propre cancer. Donc on a effectivement comme ça énormément de variations autour de ce thème. Ce que j'en retire, c'est que dans la mise en œuvre, la mise en scène, de moments qui étaient cachés, comme par exemple les fins de vie. autour des fins de vie. On a aussi une éducation non seulement pour le médecin de comment se comporter, peut-être pour le patient comment y réfléchir avant. Et en tous les cas, on a ces expériences comme ça de... je pense à Crier chuchotement, je dirais. Mm-hmm. Je pense à Amour de Haneke aussi. Des films qui finalement vont faire réfléchir tout le monde, quel qu'il soit, sur cette thématique-là. Et là, en particulier, oui, un jour, on sera en fin de vie, quoi. Mm-hmm. Où on va voir quelqu'un de proche en fin de vie. Oui.
Ce que vous dites me fait penser aussi à une séparation d'Asghar Farhadi. Je crois par exemple que ce film est très important. Vous parliez tout à l'heure du cinéma comme effectivement une mise en commun, un partage social autour de la thématique de la maladie, de la fin de vie aujourd'hui. Et par exemple, une séparation d'Asghar Farhadi nous montre bien comment le vieillissement, la dépendance d'un grand-père dans une famille demande de la part du fils pour son père et remet en cause toutes les autres relations de soins à l'intérieur de la famille, le soin conjugal entre les époux qui s'apprêtent à divorcer, le soin qu'il faut apporter à la jeune adolescente qui est la fille de cette famille. Et par exemple, vraiment, une séparation nous montre comment les relations de soins nous tiennent en vie parce qu'elles nous tiennent ensemble. Que tout notre tissu social, nos couples, nos familles, notre société, nos instances éducatives, judiciaires, sont faites de relations de soins. Et une séparation, une relation de soins qui lâche, qui s'altère, qui est anéantie, par exemple à cause de la maladie ou la fin de vie ou la dépendance, remet en cause, déchire le tissu de toutes les autres relations de soins. Et il me semble que une séparation d'Asghar Farhadi est assez paradigmatique du moment qu'on vit, du besoin de soins et de l'importance du soin dans nos sociétés.
Alors, vous êtes directrice du centre Georges Canguilhem, qui n'est pas rien, parce que Georges Canguilhem était, vous l'avez dit, un grand monsieur. Autour du normal et du pathologique, c'est peut-être aussi un des thèmes de variation qu'on peut trouver. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique? Je pense surtout aux problèmes psychiques, quoi, à tous les films qui vont traiter de cette glissade. Laura Coppel, vous souriez.
Oui, je crois qu'il y a dans les choses comme ça qui font résonance, il y a évidemment la singularité du cinéma dans cette manière, au fond, de peut-être fonctionner comme quelque chose qui a à voir avec le fonctionnement psychique. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que ça va... le glissement qui peut s'effectuer au cinéma entre une représentation de ce qui serait censé être réaliste et la manière dont petit à petit, par le décor, par les lieux, par les personnages, par les dialogues, par quelque chose va glisser vers l'imaginaire ou va être envahi par l'inconscient à l'intérieur du film lui-même, nourrit la façon dont le cinéma lui-même fonctionne et le rapport qu'il entretient avec le spectateur, notamment dans une salle de cinéma noire, comme entre veille et sommeil, évidemment très lié. Et après, le nombre de films qui se sont saisis, en particulier de films américains, mais pas seulement, du fonctionnement et du glissement, du fonctionnement psychique et de ce glissement dont on ne saisit pas toujours à quel moment effectivement se trouve la limite entre le normal et le pathologique est inouï. Peut-être, cependant, je reviendrai sur l'un des cinéastes que vous avez cité, avec cet exercice impossible que de décrire à la radio peut-être une des séquences de cinéma les plus singulières, c'est le début de Persona de Bergman. Évidemment, je ne peux pas vous la décrire parce que les plans sont très... C'est quasiment abstrait. D'ailleurs, ça démarre par un plan qui, pour 90% des spectateurs, est abstrait. Une lumière qui se répand à travers l'écran noir. Pour moi, elle n'est pas abstraite puisque c'est l'ouverture de la lampe du projecteur. Donc, qui veut dire, voilà, nous sommes à l'intérieur de la machine qui va vous projeter. Tous les termes en français sont magnifiques puisque c'est la séance, c'est la projection. Voilà, ce sont des termes similaires avec les termes analytiques. Mais effectivement, va s'enchaîner ensuite toute une série d'images, des images du premier cinéma, des petits films burlesques, des images d'un agneau égorgé, des images de mains qui se frottent, pour finir par aboutir sur des images d'un visage d'une personne âgée, enfin un visage âgé, figé dans ce qui semble être la mort, allongé sur un brancard, puis un petit garçon lui-même allongé sur un brancard qui va se réveiller, et la superposition de deux visages. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois stupéfiant et en même temps qui montre la possibilité pour le cinéma d'incarner ce qu'on appelle des images mentales. Voilà.
D'autres films sur ce monde psychique ainsi
représenté ? Sur le monde psychique, non, mais sur l'interrogation que vous posiez tout à l'heure de la définition du normal et du pathologique.
Oui.
Particulièrement bien montré par des grands films de cinéma, c'est bien sûr par exemple Elephant Man de David Lynch, qui nous montre combien l'expérience du normal ou du pathologique, qui, comme le disait effectivement Canguilhem, est d'abord une expérience vécue par un sujet dans un milieu de vie, c'est d'abord une rupture dans ses activités, dans ses projets, dans ses relations ordinaires, hein, c'est une norme de vie qui est diminuée, qui est contrainte, eh bien cette rupture-là, cette vie pathologique, elle est aussi imprégnée, voire constituée par les normes sociales. Et un grand film comme Elephant Man nous montre justement combien la perception de l'anomalie, de la monstruosité, elle est évidemment totalement construite par le regard social, voire donc à la fin du 19e siècle par l'exploitation sociale de la monstruosité et de l'anomalie, puisque l'Elephant Man est d'abord un objet de
foire.
Objet
de foire, oui. Comme la femme hottentote, d'ailleurs.
Voilà, de plaisir, de sensation esthétique pour la foule, avant d'être un objet de soin. Et d'ailleurs, avant d'être un objet de soin, il va aussi, dans un temps de transition, être un objet de monstration de la part du médecin qui le prend en charge, le docteur Treves, qui d'abord voit en Elephant Man un beau cas, un cas à montrer à ses collègues, à partir duquel faire des leçons d'anatomie et augmenter là son prestige et sa renommée scientifique. Et voilà un cas de film merveilleux, où l'imaginaire nous montre combien donc la norme sociale définit la norme pathologique, et combien le médecin, là, ce médecin Treves, en prenant en charge Elephant Man, en le prenant sous son aile, en l'hébergeant, alors qu'il sait qu'il est incurable, combien ce médecin va aussi faire bouger la norme sociale. C'est-à-dire que d'Elephant Man incurable, stigmatisé, exclu, il en fait un homme digne de justement de soins.
Est-ce que vous voulez dire qu'on peut avoir le regard sur l'autre, oui, change, l'autre différent, l'autre différent, oui, grâce justement à ce genre de film?
Oui. Oui, oui, j'en suis absolument convaincue. Et aussi, ce qui est intéressant donc dans la relation médecin-malade entre Treves et Elephant Man, c'est précisément cette reconnaissance de deux individualités, cette relation d'amitié qui se tisse entre les deux, cette relation de philia, pour parler comme les Grecs, d'amitié, de reconnaissance entre deux égaux. Et c'est ça qui fait que le soin n'est pas strictement médical, mais qu'il est précisément un soin qui émancipe, qui affranchit Elephant Man de son statut d'exploité.
Oui, sur Elephant Man, je crois que c'est un film absolument essentiel. Et je reviendrai juste sur la question du regard. Il me semble que c'est presque un film dont le sujet est à la fois la généalogie du regard et la typologie des regards. Le regard social, comme vous avez dit, qui présente la difformité comme une monstruosité. Le regard clinique avec la présentation du malade. Mais il faudrait pouvoir voir la façon dont c'est filmé, qui est assez sidérante, et la façon dont le malade est lui-même dévoilé. Et puis le regard humaniste, le regard que j'appellerais pervers, ou en tout cas veule avec celui qui vient le montrer, etc. Et puis, il y a une chose en retour qui me frappe, moi, quand je vois Elephant Man, c'est que le personnage de Treves, donc du médecin, À partir du moment où, d'ailleurs, Elephant Man, enfin le personnage de John Merrick, qui est un personnage réel, en plus c'est vécu, une des premières difformités, enfin de monstre, de difformité due à une maladie, qui a été documentée de manière photographique. Il y a une fascination, répulsion pour ce qu'on voit. Et dans le personnage du médecin, c'est le seul qui est filmé, me semble-t-il, comme pétrifié, comme littéralement médusé, par ce qu'il voit. C'est à la fois fascination, compassion et en même temps effroi absolu et porté par le personnage du médecin.
Oui, tout à fait. C'est porté aussi par les personnages des infirmières qui sont également effrayées, qui crient à la vue d'Elephant Man. Et cela permet d'ouvrir le débat, par exemple, avec des étudiants sur tous les affects que l'on vit quand on est confronté à des corps qui sont abîmés, qui sont amaigris, qui sont opérés, qui sont décharnés, etc. Des affects qui sont mêlés, comme vous le dites vous-même, entre compassion et effroi, dégoût. Cela permet de penser cette affectivité multiple et d'en parler, ce qui souvent dans les études de médecine est plutôt recouvert, censuré. Et enfin, un dernier point, vous avez raison sur Elephant Man, ce qui est magnifique dans ce film, c'est que le personnage donc John Merrick, à la fin, devient spectateur d'un opéra. La fin de Elephant Man, c'est ce renversement du regard. C'est lorsqu'il est, certes, il est aussi regardé par les spectateurs dans ce théâtre, mais il devient sujet d'un spectacle. Il regarde un spectacle et il prend un plaisir esthétique fou à être ému par une représentation théâtrale.
Moi, je trouve que tout ce que vous dites me fait penser au nombre de films, encore une fois, centrés sur l'autre, sur le différent, pour les médecins ou le personnel médical, parce que quand on parle des médecins, c'est bien sûr aussi les infirmières, vous avez raison de le dire, et tout le personnel médical, mais il y a dans la société une pénétration de des choses peuvent exister différentes. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Freaks. Ça se passe dans un cirque où il n'y a que des hommes troncs, toutes les monstruosités, je dirais, qu'on pouvait voir à l'époque dans un film. Et il va se passer un amour entre un homme qui n'a pas de bras, puis une belle trapéziste. Et en fait, on va voir que les plus méchants, ceux qui font peur au début, bien sûr, ce sont tous ces êtres monstrueux, entre guillemets, enfin différents. Et qu'en fait, les plus monstrueux, c'est ceux qui sont physiquement normaux, mais qui ont dans leur tête, je dirais, des sombres pensées d'utilisation de l'autre.
Oui d'ailleurs, c'est rigolo que vous parliez de Freaks, parce que j'y pensais à l'instant, par rapport à Elephant Man, dans le fait qu'effectivement, il y a un personnage dans Elephant Man qui est l'artiste, qui est l'actrice, qui est jouée par Anne Bancroft. Et pour elle, elle saisit qui il est, au-delà de toute apparence. Et quand elle vient le voir la première fois, elle lui dit... You're one of us. Vous êtes l'un d'entre nous. Nous, les estropiés, les artistes, qui avons cette petite différence, en tout cas cette difficulté à être avec la normalité. Et la fin de Freaks, si je m'en souviens bien, donc c'est assez terrifiant, puisqu'il y a un personnage dans ce cirque qui se joue d'un des personnages qui est déformé,
qui est handicapé,
et
oui.
Voilà, et qui à la fin dont la duplicité et la perversion est dévoilée, et tous les personnages du cirque l'entourent, et il y a une sorte de malédiction comme ça, on ne sait pas comment ça se produit, et le transforme lui-même en monstre. Et il me semble l'incantation qu'il dit à ce moment-là, c'est « one of us, one of us, one of us ». Il va devenir l'un d'entre nous par la mutilation presque magique qui lui font subir.
On a donc dans cette acceptation de l'autre, je dirais, beaucoup de films sur des thématiques sur la surdité, je pense Les Enfants du Silence, je pense à De Rouille et d'Os de Jacques Audiard, L'Enfant Sauvage aussi, Truffaut, je pense que ça vous fait réagir, Laura.
Ben oui, je crois que dans l'idée, puis L'Enfant Sauvage, là aussi, il y a un fil à tirer entre peut-être Kurosawa et Desplechin, d'ailleurs, à cause, pour Kurosawa, du bol brisé dans Barberousse et pour Desplechin, la manière de filmer peut-être le début d'Esther Kahn avec les ouvertures à l'iris et les fermetures à l'iris et encore d'autres choses. Mais effectivement, ça fait partie des films où... En plus, là, c'est encore plus frappant, puisque c'est le cinéaste lui-même qui incarne le docteur Itard, ce médecin. Donc, c'est là aussi, comme Elephant Man, ça part d'un récit, d'une étude de cas, d'un récit par le médecin. Mais là, on est dans un récit plus littéraire, d'ailleurs, puisque c'est écrit... il y a l'utilisation de la voix off, il y a la manière dont le médecin va... se saisir de cet enfant trouvé dans les bois, Victor de l'Aveyron, et le faire apparaître, le réintégrer dans l'humanité.
Nous allons faire une petite pause.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Petite pause parce qu'il faut, on a tellement de sujets et nous allons tout de suite aborder le problème de la génétique et de l'avenir tel qu'il peut être déterminé par des médecins qui ont peu d'humanité. Ils sont pas passés par votre enseignement. Écoutons Gattaca.
Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ?
Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
Bien sûr, ça va, Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom.
Voilà, vous êtes sur France Culture, Révolution médicale, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous abordons donc le thème du cinéma et de la médecine avec deux invités émérites, Céline Lefebvre et Laura Coppel, qui sont passionnées de cinéma et de cette thématique, donc cinéma et médecine. Gattaca, alors, vos réactions, mesdames ?
Eh bien,
Céline Lefebvre.
Voilà typiquement un film d'anticipation qui nous montre combien la médecine est inscrite dans les choix politiques et sociaux et qu'elle n'en est nullement abstraite et que effectivement la définition du normal et du pathologique, de la santé ou de la maladie, elle résulte de choix moraux que collectivement une société se donne. Et voilà, ce que nous montre Bienvenue à Gattaca, c'est un peu un cauchemar, celui d'une société eugéniste où la procréation est entièrement médicalisée, hein, puisque ce qui est socialement promu, c'est le fait de faire des enfants exclusivement par fécondation in vitro. De manière à pouvoir ensuite trier et sélectionner des embryons qui vont être exempts de maladies ou de prédispositions à des maladies avant une réimplantation. Et puis donc tout cela, cette société eugéniste se cache en fait comme telle, elle ne s'avoue pas comme telle, puisqu'elle affiche l'interdiction de la discrimination, hein, elle fait reposer le choix procréatif, hein, le choix des embryons exempts de maladies ou de risques de maladies sur les couples. Hein. Ce sont les couples qui sont invités à choisir in fine s'ils vont... opter pour cette méthode de procréation ou non. Donc on a une, non pas un eugénisme d'État, un eugénisme prescrit de manière verticale, étatique, mais un eugénisme qui est fondé sur l'autonomie des personnes.
Oui, encore que là, en l'occurrence, il est quasiment interdit de concevoir naturellement.
Voilà, c'est ça. C'est une incitation qui est tellement forte que chacun, finalement, s'y conforme, tout simplement dans l'intérêt de ses enfants, par la peur que les enfants soient toute leur vie discriminés.
Alors, Bienvenue à Kataka, c'est d'Andrew Nichols.
Oui, hein. 1997.
Voilà, et ça marque, je dirais, ceux qui sont préoccupés par cette transformation possible de l'éthique médicale d'un côté, de la société, comme vous l'avez montré là à l'instant. Laura Coppel, vous avez une intervention.
Ce qui me frappe évidemment dans le film, c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit, que c'est un eugénisme qui ne dit pas son nom et qui est justifié par l'idée de la performance, notamment de la performance dans le rôle économique que chaque individu, c'est tenté qu'on puisse encore les appeler comme tels, va pouvoir réaliser dans son rôle social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement il faut bien, puisque c'est du cinéma, qui est un enjeu dramatique et qui va être, comme très souvent, comment est-ce que un personnage va déjouer tout ce qui est déjà prévu. Voilà. Et là aussi, après, c'est étonnant, puisque j'ai vu, là, il y a quelques jours, une interview d'Arnold Munich dans Libération, où il expliquait justement que sur la manière dont aujourd'hui on voit l'idée de la détermination par rapport à des facteurs génétiques et la façon dont ça s'exprime, je me souviens d'avoir écouté votre émission sur l'épigénétique, voilà, comment ça s'exprime. C'était étonnant, à 20 ans d'écart par rapport à Gattaca, de voir justement comment la réflexion a changé aujourd'hui aussi.
C'est-à-dire qu'on est moins sur la détermination génétique du gène lui-même, et on fait beaucoup plus intervenir tous les phénomènes de l'environnement, y compris biologique d'ailleurs, qui vont faire que l'expression de ces gènes ou de ces conséquences vont être changées et vont varier, et c'est une ouverture un peu plus grande que le strict génétique.
Et l'autre chose qui me frappe, alors là qui est peut-être un petit peu plus générale que dans Gattaca, c'est précisément comment est-ce que sur le moment où des révolutions médicales, pour reprendre le titre de votre émission, apparaissent dans le champ de la médecine, comment le cinéma ne peut pas, à l'instant T, au moment présent, parler de ça, mais en revanche, peut poser les questions à la fois morale, sociale, politique, que ces changements, ces possibilités, même à long terme, vont pouvoir poser. Donc ça, c'est évidemment la voie du cinéma fantastique ou de science-fiction. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, pas seulement au cinéma, puisque on va, je crois, c'est ça, fêter le 200e anniversaire du roman de Mary Shelley, Frankenstein.
Frankenstein, oui.
Et d'autre part, alors on sort un peu de Gattaca. Comment est-ce que, en revanche, ce qui est possible pour le cinéma, c'est de revenir, une fois que c'est devenu une réalité concrète et une pratique médicale, revenir sur la découverte. Par exemple, pour prendre un film beaucoup plus ancien, La vie de Louis Pasteur.
Oui, mais ça c'est voilà. Reprendre des grands personnages qui ont marqué. C'est des films quasiment historiques, où on peut, bien sûr, mais ça, on va le voir dans les séries, d'ailleurs, comme The Knick, que
voilà.
Vous connaissez bien.
C'est l'idée que le cinéma permet à la fois de poser des questions à très long terme d'anticipation, mais qui pose des questions aujourd'hui sur les décisions ou sur une pensée d'une éthique médicale, et en même temps... Du coup, comme vous dites, est-ce que c'est quelque chose d'anticipation qui va s'incarner dans une réalité ensuite que la médecine pourra, comme la question des greffes de visage.
Alors justement, vous me lancez la balle parce que je voulais dire que de temps en temps, les films aussi précèdent, y compris la réalisation médicale. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans tous ces films qui sortent dans les années 50-60 sur la greffe du visage. Alors que, à ce moment-là, vraiment, on n'y pense pas. sur le plan médical. On n'y pense pas parce qu'on connaît pas les, on connaît à peine les phénomènes, enfin, comment traiter le rejet. Et puis en plus, on n'est pas du tout sur greffer quelque chose qui n'est pas nécessaire à la survie, même si c'est atroce et qu'il y a eu les gueules cassées de 14-18, etc. Et donc, c'est ce personnage défiguré et cette transformation s'accompagne souvent, je dirais, d'une réflexion sur le pouvoir du médecin. Parce que souvent, quand vous prenez les films comme, je dirais, le Stolen Face, par exemple, ou bien l'horrible docteur Orloff, ou bien encore le visage d'un autre. Mais il y en a beaucoup. J'étais surpris en préparant cette émission de voir un petit peu tout cela, y compris d'ailleurs Arnaud Desplechin sur un conte de Noël sur les greffes entre vivants. Mais là, sur en particulier la greffe du visage, qui était encore une fois pas du tout programmé comme quelque chose. Là, on fait vraiment de la prévision bien avant. Georges Franju, hein, les yeux sans visage. Mais il y a toujours quelque chose de criminel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un médecin diabolique qui, avec une assistante non moins diabolique, va kidnapper quelques jeunes filles pour leur prélever la peau du visage et pouvoir traiter soit la fille, soit l'amante, soit qui a été défigurée. Et bien sûr, tout ça se termine mal. Donc on est en même temps dans la transgression de ce qui est possible, à l'époque impossible, mais qui va devenir possible. Et en même temps, on voit bien avec un climat, bien sûr, une intrigue, puisqu'on est au cinéma, comme vous l'avez dit. Et là, on a du dramatique, parce qu'il y a souvent des meurtres à la clé. Mais dans toutes ces anomalies, par exemple, La Chambre des officiers aussi, qui est un film de Duperron en 2001, où je veux dire, tout ce problème de la reconstruction, je dirais, du handicap physique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il y a une réflexion, d'ailleurs, que vous évoquiez en aparté sur le fait qu'il y a entre la mise en scène, ou plutôt le montage, et le chirurgien, il y a un parallélisme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Céline Lefebvre.
Oui, mais je pense que Laura serait plus à même de commenter ça. Enfin, effectivement, il y a sans doute une analogie à faire entre le travail de réalisateur, de metteur en scène et de montage, et le travail de créateur, de chirurgien, de qui reconstruit, qui recoue, qui rebâtit parfois le corps. Mais en fait, je suis frappée parce que depuis le début, il y a un fil conducteur dans notre conversation. Finalement, c'est celui de la réintégration de celui qui est différent ou de celui qui est malade. On a parlé par exemple d'Elephant Man en ce sens, ou de celui qui est mal né, hein, dans Bienvenue à Gattaca. C'est comment l'intégrer finalement dans une société où il ne soit pas rivé à son identité et à son statut, soit de monstre, soit de malade, soit d'homme imparfait. Et précisément, la médecine et le soin ont pour fonction justement d'aider les personnes à ne pas être rivées, à ne pas être étiquetées, enfermées dans leur statut de malade et de patient, de réintroduire du jeu en fait et de la liberté. Et peut-être aussi que c'est ça qui nous fascine dans ces affaires de greffe de visage, c'est-à-dire qu'on se demande si la personnalité de celui qui ou de celle qui est greffée va changer en fonction du greffon, en particulier si ce greffon est celui d'un
visage. C'est la question fondamentale qui est souvent posée, qui est celle où est la personnalité,
voilà.
Hein, où est la personne.
Et en fait, alors quand on écoute un certain nombre de conférences, soit des personnes qui ont eu une greffe de visage, soit de personnes qui les ont accompagnées, elles disent finalement que cette question de l'identité n'est pas si, ne les travaille pas autant que ça. Ce qui est important pour ces personnes, c'est de pouvoir interagir avec l'autre, exprimer ses émotions, parler, manger, travailler, vivre en un mot. Donc finalement, la question de l'identité comme identification à un autre n'est pas si importante que ça. Encore une fois, on revient à Quand Guillem. Ce qui est important dans le soin en général et dans la greffe de visage notamment, c'est de permettre à la personne de retrouver une vie de relation qui est satisfaisante.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une vie de relation qui, autant que faire se peut, revient à l'identique de ce qui était avant destruction, mais aussi acceptation que...
Voilà.
Parce que quand on a une mutilation, quand on a un cancer, quand on a une maladie chronique, on est quand même, et vous le disiez au début, on est quand même quelqu'un qui a peut-être une maladie, on n'essaye pas forcément, on peut pas, c'est pas qu'on n'essaye pas, c'est qu'on peut pas revenir à l'état antérieur parfait, entre guillemets. Et troisièmement, et à se pose maintenant, et à mon avis les films vont sortir, sur l'homme augmenté. Hein, c'est non seulement on revient à la case départ idéale, mais en plus on va lui ajouter des fonctions. Et à ma connaissance, il n'y en a pas encore un qui est sorti, mais ça va arriver.
Mais en tout cas, ce que vous dites est très juste. Il n'y a jamais de réversibilité de la vie. Il n'y a jamais de retour à l'état antérieur. Donc, dans la greffe de visage, comme dans toute autre intervention ou tout autre traitement, la vie s'écoule, hein, la durée s'écoule, hein, et la médecine et le soin n'ont pas pour but de faire revenir un individu à un état antérieur, mais au contraire de lui permettre d'avoir une vie qui soit satisfaisante pour lui, dans son monde, et du coup d'avoir une identité qui est pas augmentée, mais qui est nouvelle, qui est différente, qui est enrichie ou aussi parfois amoindrie par cette expérience de la maladie, de la greffe, du traitement, etc. Et du coup, moi, je vois simplement la greffe du visage comme un événement médical et chirurgical un peu comme un autre, qui est celui où on doit, mais comme à plein d'étapes de notre existence, après une rencontre, après un deuil, après un abandon, après un déménagement, après un changement professionnel, c'est une étape où on devient un autre tout en essayant de rester soi-même.
Alors vous évoquez donc bien, très bien d'ailleurs, la place du patient, hein, de l'homme ou de la femme malade, ou qui doit être considéré comme bien, mais avec une maladie, on va dire. Il y a aussi dans les images du cinéma des médecins, il y a aussi des médecins comiques, hein. Heureusement, ça détend un peu l'atmosphère. On a Knock, bien sûr, on a le film MASH, sur le film de guerre, je dirais, qui est quand même des médecins en guerre du Vietnam, je crois, avec quelques drôleries. Sur le patient, on a aussi Hyperchondriaque, là, qui était bon, moyen comme film, mais quand même, la thématique était assez drôle. De cette côté hyperchondriaque, enfin le thème.
Oui. Oui. Il y a Woody Allen aussi dans le genre.
Voilà, j'y arrivais, mais vous m'avez précédé. Et vous avez raison.
Bon, ben il y a effectivement le personnage récurrent de Woody Allen. Je crois que c'est dans Anna et ses sœurs où il y a cette séquence où il est persuadé qu'il a une tumeur au cerveau et on le voit faire des tests auditifs, etc. Et puis il sort dans la rue et il est tellement heureux de rien avoir, il fait quelques pas et il est pétrifié et quelque chose, voilà. Donc il y a...
Non, c'est des grands films effectivement sur le patient, on va dire, et ses problèmes psychologiques. Il y a aussi toute une série de films sur les héros médicaux. Alors vous avez cité Pasteur tout à l'heure, Laura Coppel. Il y a aussi des films sur Norman Bethune, moins connu, hein, qui était un Canadien qui est parti faire de l'aide, le premier qui a fait de l'aide humanitaire en Chine. Il était avec les troupes de Mao Tse-Tung. Et il y a un film qui a été fait sur lui. Il y a Le Grand Blanc de l'Homme Araigné, Il est minuit, Dr Schweitzer. Oui.
Il y a un film que je veux mentionner à propos des médecins comiques, mais très fin et délicieux, c'est People Will Talk de Mankiewicz, avec Cary Grant dans le rôle d'un professeur de médecine, qui est un film d'une subtilité, c'est comme une bulle de champagne ce film, et qui en même temps est extrêmement profond, et qui nous montre que dans lequel il y a toute une métaphore de l'histoire de la psychanalyse, mais aussi de l'histoire de l'anatomie. Enfin bref, il s'agit d'un médecin qui est chirurgien, qui est diplômé d'une université américaine, donc qui est un médecin tout à fait normal, scientifique, et en même temps qui revendique de soigner aussi par l'écoute et par la parole. Donc il se revendique aussi comme guérisseur. Et donc il a cette double identité, de médecin scientifique et de guérisseur, ce qui permet d'approfondir par exemple des notions comme celle de transfert ou de contre-transfert dans la relation thérapeutique, mais c'est fait par Mankiewicz. C'est-à-dire que c'est fait par une histoire qu'il est trop compliqué là de vous raconter, notamment une histoire d'amour avec une patiente. Mais vraiment, je conseille de voir ce film sur justement la remise en cause ironique d'une figure du médecin comme étant seulement un savant, seulement quelqu'un qui connaît les organes et les tissus.
Très bien. Vous avez donc toute une série sur le médecin de famille, que ce soit la maladie de Saxe, que ce soit les hommes en blanc qui datent un peu, le cas du docteur Laurent. On a beaucoup autour de la naissance, René ou le rendez-vous avec le temps, d'Éric Duvivier et Jean Reboul, Hippocrate qui vient de sortir et qui a fait aussi beaucoup d'intérêt. En un mot, si vous voulez, à part quelques films encore de transgression comme Almodovar sur Parle avec elle, et puis sur le rôle justement, on parlait du médecin qui n'est pas uniquement un soignant mais qui de temps en temps transgresse. Oui,
sur ça, il y a quand même un cinéaste qu'on n'a pas cité et qui me semble être absolument fondamental, qui est David Cronenberg.
Évidemment. Oui, absolument. Alors Faux-semblant. Allez-y.
Faux-semblant, donc en deux mots, l'histoire de deux jumeaux, deux vrais jumeaux qui deviennent gynécologues et qui sont des génies, qui inventent dès leurs études de médecine un nouvel outil et une fascination pour l'outil. D'ailleurs, le générique, ce sont des représentations anatomiques anciennes et des anciens outils.
Oui, voilà. Ils inventent des instruments.
Voilà, et puis évidemment, une femme, ils se partagent tout.
Y compris les femmes.
Y compris les femmes, y compris les patientes. Et souvent d'ailleurs, les femmes sont leurs patientes, ou leurs patientes sont les femmes. Et puis, une femme va venir, foutre la zizanie entre ces deux jumeaux. Et on va glisser, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, on va glisser de quelque chose qui semble être normal dans le pathologique le plus sanglant et terrifiant entre ces deux jumeaux. Voilà. Et leur rapport au corps. Mais il y a dans une très grande partie du cinéma de Cronenberg quelque chose qui est cette hybridation du corps, hein, avec des matériaux extérieurs. Et là aussi, ça c'est une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est sous-jacente à tout ce qu'on dit, qui est cette relation très complexe de l'intérieur à l'extérieur, qui se traduit évidemment par la manière dont le corps et l'imaginaire travaillent ensemble et sont représentés au cinéma.
Alors peut-être dans les quelques instants qui nous restent ensemble, cinéma et science médicale cette fois-ci, c'est-à-dire parce qu'il y a eu quand même une révolution qui a été faite en particulier par Jean Painlevé dans les années 1925-30, qui a été de commencer, et c'était contesté, hein, qui était de filmer et de se servir des films, donc c'est peut-être votre ancêtre, à vous, Céline Lefebvre, puisqu'il montrait que ça pouvait servir à la recherche et à l'enseignement, et en particulier son film sur l'œuf de l'épinote, un poisson, de la fécondation à l'éclosion. Mais il a créé ensuite, surtout, un institut cinématographique scientifique qui a été créé rue d'Ulm en 1933, où il y a une quarantaine de films, des congrès qui se réunissent. Et aujourd'hui, il n'y a pas un congrès médical, où il n'y a pas des salles spéciales, où il y a des projections scientifiques d'opérations en particulier, ou de certaines démonstrations. Et Jean Painlevé va être professeur au CNAM, et en 37, il va développer justement cet enseignement scientifique extrêmement important. Puis il y a ces courts-métrages purement scientifiques, passent aussi dans le public, en particulier je pense à Alain Resnais sur Mon oncle d'Amérique, où on a, je dirais, l'intervention d'Henri Laborie, où on fait la comparaison entre les observations d'Henri Laborie sur les comportements des animaux, et puis bien sûr l'être humain, donc comment est-ce qu'on peut faire une relation entre le cerveau, à l'époque on pensait reptilien, deuxième cerveau, et le néocortex. Donc il y avait toute une théorie qui alimentait ce comportement social lié à des intégrations de nos différents cerveaux. Donc on le voit, cette œuvre cinématographique dont nous avons pu que survoler dans l'instant imparti, nous ouvre la porte quand même vers peut-être quelque chose d'important vis-à-vis des médecins, c'est l'humanité de la formation médicale. C'est votre rôle en particulier, Céline Lefebvre, dans l'enseignement que vous dispensez, les écrits que vous avez pu faire au PUF en particulier. C'est aussi pour le public en général qui est avare de ce sentiment de comprendre ce qui se passe dans la vie, et c'est peut-être le rôle du cinéma en général, Laura Coppel, que vous commentez dans les ciné-clubs et dans vos propres réflexions. C'est aussi pour le médecin et les médecins, je dirais, une école de la vie, parce que bien sûr que de temps en temps on voit des choses tellement étonnantes dans notre pratique, mais souvent, je dirais, on s'aperçoit en écoutant, en voyant, en regardant le cinéma, qu'il y a d'autres situations, qu'on peut évoluer notre propre façon de faire. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs sur le cinéma et médecine ? Petite phrase de conclusion.
Effectivement, je dirais que la force du cinéma, de l'incarnation, de la mise en scène, de l'émotion que dégage le cinéma, effectivement nous permet de, notamment aux médecins et aux futurs soignants, d'imaginer ce que cela fait au corps, à la vie, à la relation aux autres, que d'être malade et que d'être médicalisé. Et qu'il y a là une force de... un voyage que permet le cinéma et qui permet d'imaginer d'autres vies que la sienne, d'autres valeurs, d'autres conceptions du monde que la sienne. Et aussi, en même temps, ce que nous montre le cinéma de la médecine d'aujourd'hui, justement, c'est l'état où elle en est aujourd'hui. Et un des derniers cinéastes qu'on n'a pas cité, mais qui a été absolument crucial pour moi dans la décision de fonder ces enseignements sur le cinéma, c'est Frédéric Weizmann. C'est Titty Cut Follies. En fait, j'ai vu Titty Cut Follies, j'avais 23 ou 24 ans, qui est le premier documentaire qu'il a réalisé sur une prison-hôpital aux États-Unis, dans l'état du Massachusetts, qui montrait la réalité du traitement de détenus qui étaient à la fois criminels, mais aussi malades mentaux, qui avaient besoin de soins. Et le cinéma permet de dire le monde et la médecine d'aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à mon avis, si on y prête attention et si on lit avec, à l'aide du cinéma, des textes d'anthropologie, de sociologie ou de philosophie, on peut aussi faire changer la médecine et le soin.
Laura Coppel, peut-être.
Moi, ce sera peut-être plus simple, à savoir que si je me place simplement comme spectatrice, disons un peu éclairée, il y a dans la façon dont le cinéma représente les choses quelque chose qui est cette passion de comprendre, de comprendre qui on est au monde, comment est-ce qu'on fonctionne, la vie même. Une question de vie ou de mort, c'est le titre d'un film que j'aime beaucoup de Michael Powell, qui parle aussi d'un médecin, mais pas seulement, du rapport de l'intérieur à l'extérieur. Et cette mise en abîme, cette mise en miroir comme ça, pour quelqu'un comme moi qui évidemment... peut être aussi très intimidée par ce qu'est la médecine, simplement une spectatrice, peut-être un jour future patiente, qui sait. Voilà, il y a ce lien comme ça qui nous lie profondément à l'idée de construire son existence, vivre, pour reprendre le titre de Kurosawa dont vous avez parlé.
Merci à toutes les deux. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Dany Journeau, qui est à Cannes en train de se faire bronzer, et avec Philippe Palares à la prise de son. Révolution médicale est une émission de la tranche Culture Science de France Culture. Cette tranche sévit tous les jours de 16h à 17h. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de franceculture.fr et sur le site de notre partenaire, le quotidien du médecin.fr. Demain, vous avez rendez-vous avec la Dream Team de France Culture Science en la personne de Sylvain Kahn, qui présentera Planète Terre. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous passerons le bac. Donc rendez-vous pour les élèves, pour les parents et pour les grands-parents qui veulent que leur fiston devienne un grand cinéaste.